France Culture, vous écoutez la nuit spéciale que nous consacrons aux grandes vacances. Dans un peu moins de 2 semaines, elles commenceront officiellement pour tous les enfants de France. L'occasion pour nous de vous proposer un pot-pourri d'émissions qui évoque ce temps rêvé, idéalisé parfois, et qui fait en tout cas partie des institutions françaises. Peut-être certains d'entre vous, parents, sont-ils ces jours-ci occupés à compter les paires de slips, de culottes et de chaussettes de leurs bambins pour composer le sacro-saint trousseau de la colonie de vacances dans laquelle ils enverront leurs enfants. Figurez-vous que depuis un peu plus d'un siècle, quelques 60 millions d'enfants français ont fait l'expérience du séjour en colonie de vacances. Et si elles sont hélas aujourd'hui moins prisées qu'autrefois, nombreux sont ceux pour qui grandes vacances riment dans les souvenirs avec la colo. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu envie de recevoir cette nuit Laura Lee Downs. Bonsoir à vous.
Bonsoir, bonsoir Mathilde.
Merci beaucoup d'être avec nous cette nuit. Vous êtes historienne, professeure à l'Institut universitaire européen de Florence, le prestigieux Institut universitaire européen de Florence, directrice d'études au Centre de recherche historique de l'EHESS, et vous êtes l'auteur d'une passionnante Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours, qui était parue en 2009 chez Perrin. Dans l'avant-propos de ce livre, vous écrivez « Il peut sembler étrange qu'une Américaine que vous êtes s'intéresse à l'histoire des colonies de vacances en France » et vous racontez que vous avez souvent été confrontée à la surprise des personnels des archives que vous consultiez, qui s'étonnaient de votre intérêt pour ce sujet. Alors pour ouvrir notre discussion, j'aimerais que vous nous racontiez comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette histoire-là et pourquoi est-ce qu'il vous a semblé que ça faisait un bon sujet, l'histoire des colonies de vacances.
Ben merci pour la question, parce qu'en fait, la chose que j'avais envie de... Qui m'intriguait quand j'ai commencé à faire l'histoire de la France. Et j'ai commencé avec un livre sur l'histoire du travail des femmes dans les industries métallurgiques et minières, avec une comparaison avec l'Angleterre. Donc, il s'agit des industries métallurgiques et minières durant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, avec cette comparaison franco-britannique.
Une histoire ouvrière, non ?
C'est ça. Et la chose qui m'a beaucoup frappée quand j'étais en train de terminer ce livre, c'était le fait que dans les industries britanniques, les ouvrières et les ouvriers d'ailleurs étaient présents dans les villes durant plusieurs générations, tandis qu'en France, j'étais devant des jeunes femmes, des jeunes paysannes, migrées récemment de la Bretagne, de la Creuse, Corrèze et autres, à Paris, pour travailler dans l'industrie et échapper un peu aux servitudes domestiques, à la ferme, etc. Donc ça m'intéressait, la question de la culture ouvrière en France qui côtoie qui est en proximité avec les cultures rurales, et quelles sont les relations entre ces cultures rurales et les cultures des ouvriers et des ouvrières récemment arrivées dans les banlieues parisiennes.
Oui, parce que c'est une chose que vous soulignez dans le livre, on va y revenir, que vous avez, qui apparaît nettement dans l'histoire des colonies de vacances, c'est que pour tous les jeunes enfants qu'on commence à faire partir à la campagne à la fin du 19e siècle, pour tous ces jeunes enfants des villes, à cette époque-là, il n'y a pas si longtemps encore, on vivait en France à la campagne. C'est cette naissance de l'envie de faire partir les enfants des villes à la campagne vient aussi d'une forme de nostalgie pour la vie campagnarde telle qu'elle se déroulait peu de temps avant.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire à Paris, mais aussi à Paris à la fin du 19e siècle, mais aussi dans la banlieue parisienne après la Première Guerre et jusqu'aux années 50. Entre 3/4 et 80%, c'est-à-dire 75 et 80% de la population de ces banlieues étaient des migrants des campagnes françaises. Donc, il s'agit d'une population considérable et beaucoup de ces gens envoient leurs enfants déjà à la campagne, chez les grands-parents, chez les cousins, chez les amis, durant les grandes vacances d'été, parce que les parents travaillaient. Ils ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants lorsque les écoles ont fermé leurs portes.
Alors, on va revenir à ce moment donc assez clé de cette fin du 19e siècle, qui est pour vous le vrai moment de la naissance de cette histoire. Mais on va remonter aussi le fil un peu plus loin. Une surprise que j'ai eue en ouvrant votre livre, c'est que vous faites démarrer cette histoire au moment de la Révolution française. Le livre s'ouvre sur l'été 1794, l'an 2 de la Révolution française, juste avant la chute de Robespierre. Et vous parlez en particulier d'un discours, le discours d'un député, le citoyen Louis Porthiez, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui vient prononcer un discours à la tribune de la Convention pour prôner une révolution dans les méthodes éducatives. C'est une surprise parce que la première surprise quand on lit votre livre, c'est que vous faites commencer l'histoire en 1880, alors qu'on associe souvent dans l'imaginaire français la colonie de vacances au Front populaire, et on va voir que ça remonte à plus loin. Mais deuxième surprise, c'est qu'en fait tout ça démarre dès la Révolution. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui était ce Louis Porthiez et en quoi consistait son discours? Qu'est-ce qu'il prônait à ce moment-là à la Convention?
Bon, alors Louis Porthiez, si je m'en souviens bien, il était député de l'Eure. Et lui était pédagogue, il s'intéressait beaucoup à l'éducation des enfants et l'éducation civique des enfants et à l'idée qu'on ne peut pas construire une société révolutionnaire sans s'occuper de l'éducation des enfants et des enfants des classes populaires et de faire en sorte d'une éducation civique républicaine et qui unit les enfants de toute la France. Et pour ce faire, il fallait faire en sorte que ces enfants partent en vacances scolaires, brigades scolaires, vers la campagne et qu'ils partent à découvrir le pays, à découvrir les paysages divers et à apprécier la beauté, la grandeur, l'importance de la France, de cette belle nation, de cette belle république.
Oui, dans l'idée de Louis Porthiez, l'idée c'était de faire que les enfants des écoles puissent aller découvrir un peu les campagnes de France. Peut-être pour illustrer un peu le propos, je vais citer un extrait de ce discours que vous citez dans le livre. Donc Louis Porthiez dit « Les voyages donnent l'essor à l'imagination, à l'esprit de la tenue, à l'âme de la vigueur, au corps de la force et de la souplesse. Par les voyages, les idées s'agrandissent, les aperçus se multiplient, les préjugés se détruisent. Citoyens, vous apprécierez quelles possibilités il y aurait à ce que, dans les beaux jours, une école même tout entière se portât dans la campagne, et là, tantôt à l'abri d'une roche escarpée, tantôt dans l'épaisseur du bois, quelquefois dans la profondeur d'une vallée, reçue sous les yeux immédiat de l'être suprême, des leçons de vertu et d'amour de la patrie. » Donc on a là cette double idée que le contact avec la nature est important pour la formation des jeunes âmes, mais aussi que ça peut être une occasion de fonder un sentiment patriotique au fond.
Oui, c'est ça. C'est vraiment que les révolutionnaires se trouvaient devant une France qui était divisée en régions très différentes. Les populations se connaissent pas. Il n'y a pas de manière de... C'est très difficile. Ça prend beaucoup de temps de voyager dans la France, dans toute la France. Et il n'y a pas évidemment de chemin de fer, rien comme ça. Et donc, cette idée d'unir la nation dans un sentiment de patriotisme à travers les voyages scolaires, c'était vraiment quelque chose de très important qui sera reprise, cette idée, par la Troisième République quand elle organise les premières colonies scolaires durant les années 1880.
Au moment où Louis Porthiez s'exprime, on peut imaginer aussi que l'influence des thèses de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, et de l'Émile sont aussi très très prégnantes. C'est l'Émile, c'est l'idée que le contact avec la nature est peut être l'objet d'une formation pour les jeunes enfants.
Oui, on est à peu près 20 ans après la publication de l'Émile, et donc on est vraiment dans une pédagogie qui a une forte empreinte des thèses rousseauistes concernant la pédagogie pour les garçons notamment.
Oui, on va revenir sur la question de l'éducation des garçons et des filles. En tout cas, ce Louis Porthiez, il conclut son discours, il concluait son discours en laissant le soin au comité d'instruction publique de mettre en œuvre son idée, mais en fait, personne ne va la mettre en œuvre, jusqu'à donc, un siècle plus tard, dans les années 1880, qui marque pour vous le vrai démarrage de la colonie de vacances. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces années-là qui fait que pour vous, c'est la naissance de ce que nous, on appelle aujourd'hui les colonies de vacances? Pourquoi c'est un moment vraiment tournant, ces années 1880?
Alors, pour moi, une des raisons principales pour laquelle la colonie de vacances démarre dans cette période, c'est lié à la scolarisation universelle des enfants de 6 à 12, 13 ans.
Et oui, parce que les lois donc, pour l'école Ferry. Obligatoire, les lois Jules Ferry, c'est 1881-1882.
Oui, c'est ça. Et quelques années avant, en 1874 et 1878, il y a deux lois qui défendent le travail des enfants dans des usines. Et
qui l'interdisent.
Oui, c'est ça. Donc, c'est interdit dans les usines, c'est interdit dans les ateliers, c'est interdit dans les fêtes foraines. Donc, il faut pas que les parents transforment leurs enfants en petits singes qui font des danses dans les cirques. Et donc, du coup, l'enfant est retiré des lieux de travail où il y a les parents, et donc ils sont dans les rues, ils sont plus sous l'œil de leurs parents ou d'autres adultes, et donc arrivent très vite les écoles républicaines. Il y en avait déjà pas mal d'écoles à Paris et ailleurs, donc c'est pas comme si, il faut pas imaginer qu'il y avait pas d'école publique, il y avait pas d'école élémentaire avant 1880-81. Mais ça devient universel, obligatoire.
Généralisé.
Oui, c'est ça.
Et du coup, il faut occuper les enfants pendant la période, la longue période d'été, qui à cette époque-là, d'ailleurs, démarrait beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. Les grandes vacances dans ces années-là, c'était...
C'était à partir du 14 juillet.
Et ça allait jusqu'en octobre.
Hein, c'est ça, début octobre. Ça. Parce que, comme la France était un pays très rural, avec beaucoup d'enfants de paysans, ces petites mains étaient fort utiles au moment des vendanges, des récoltes et tout ça. Donc, jusqu'à la fin du mois de septembre, les petites paysans et paysannes étaient travaillant dans les champs.
Donc, à ce moment-là, vous expliquez que ce sont les protestants qui, en France, les premiers, vont avoir l'idée d'envoyer les enfants donc à la campagne dans des formes très différentes d'aujourd'hui, et vous montrez que plusieurs œuvres protestantes s'inspirent notamment de l'action d'un pasteur, un pasteur zurichois, qui s'appelle Wilhelm Bion. Ou Bion, je ne sais pas comment on prononce en allemand, et qui est en fait l'inventeur du terme même de colonie de vacances, les Ferienkolonie. C'est lui qui met au point cette idée. Alors, qu'est-ce que c'était les Ferienkolonie de ce Wilhelm Bion, et quel était ce personnage, quelle était son idée à lui?
Alors, Wilhelm Bion était un pasteur dans un quartier très pauvre à Zurich. Et Zurich, c'est une ville dans une vallée entourée par des montagnes. Et son idée était de prendre les enfants qui étaient chétifs, souffraient de plein de maladies, la tuberculose, l'anémie, ils étaient simplement mal nourris, et de les faire coloniser chez les paysans à la montagne. Et comme ça, ils étaient au soleil, au bon air, et il y avait du lait.
Oui, alors c'est-à-dire, c'est une chose que je ne savais pas du tout et qui est assez amusante quand on lit votre ouvrage, les faire coloniser la montagne, c'est-à-dire en fait que ce pasteur les envoyait chez les paysans. Ils étaient en quelque sorte chez l'habitant, et c'est ça qu'on va retrouver en France. Donc ce n'est pas du tout les colonies telles qu'on les connaît à l'époque moderne, qui sont des colonies collectives, etc. Là, c'est les enfants étaient placés un à un chez l'habitant, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'était une bonne solution dans la mesure où on pouvait envoyer des enfants, mais vraiment très très petits, Et moi, j'ai vu des photos d'enfants français envoyés à la campagne qui avaient visiblement pas plus que 2 ans et demi.
Oui, ce qui pour le coup se fait plus du tout aujourd'hui. On n'en voit pas les enfants si jeunes. Ça. Et alors, c'est tout. Il y a toute une série d'acteurs très importants dans ces années-là. Vous pointez notamment l'œuvre en France, une œuvre protestante qui s'appelle l'œuvre des 3 semaines du pasteur Loriot et de sa femme, le pasteur Théodore Loriot et sa femme Suzanne, qui envoie par exemple des enfants de Levallois-Perret à la campagne, dans l'Oise, je crois, oui, notamment. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces personnages? Vous citez notamment une autre œuvre protestante qui s'appelle l'œuvre de la Chaussée du Maine, menée par une femme philanthrope qui s'appelle Élise de Présensé. Quels étaient ces personnages et pourquoi ils s'emparent de ce sujet-là à ce moment-là?
Alors, je crois que c'est justement l'urbanisation et l'industrialisation des quartiers de Paris et aussi des quartiers autour de Paris comme Levallois-Perret ou Clichy, ou donc des endroits où il y avait beaucoup d'industrie, il y avait beaucoup de pollution, l'air était vicié, beaucoup de bruit, les enfants vivaient mal, les parents travaillaient, donc les enfants n'ont pas été surveillés et ils avaient des problèmes de santé.
Oui, parce qu'il faut dire que à ce moment-là, il y a un souci qui est dans la tête de tous ces acteurs. C'est le souci hygiéniste. C'est l'idée que les envoyer respirer l'air pur, c'est bon pour leur santé. Vous le rappeliez tout à l'heure. C'est une époque où les enfants souffrent de la tuberculose, mais pas seulement. Il y a tout un tas d'autres maladies infectieuses qui les mettent en danger dans l'univers urbain.
C'est ça. Rachitisme, parce qu'il y a un manque de soleil, etc. Et donc la campagne, c'était la solution. C'était une solution d'abord sur le plan hygiénique, mais deuxièmement un peu sur le plan moral, parce que la famille paysanne va donner un exemple du travail sain, d'un comportement dite sain devant le travail,
c'est-à-dire... Oui, ça c'est aussi quelque chose de la morale protestante. Oui, enfin, on comprend pourquoi les protestants se sont intéressés du coup à cette notion-là.
Parce que du coup, les enfants ne vont pas être devant l'exemple de leur peut-être de leurs parents ou des gens dans le quartier, du syndicalisme, politique socialiste, etc., de l'esprit de rébellion. Ils seront devant les paysans qui se plient devant la nécessité de suivre l'ordre de la nature. Et donc, des gens qui travaillent dur et qui se rebellent pas, qui se plaignent pas et qui acceptent que le travail, c'est la loi du Dieu, c'est la loi de la nature. Et donc, il y avait aussi cette idée d'une éducation morale qui passe par le simple fait d'être placé dans une famille paysanne.
Et concrètement, comment se déroulaient les journées pour ces enfants? À quoi est-ce qu'ils étaient occupés, ces enfants envoyés à la campagne? Est-ce qu'on les invitait à participer concrètement aux travaux des champs? Ou est-ce que l'idée, c'était quand même qu'eux puissent s'amuser pendant que les paysans chez qui ils étaient travaillaient? Puisque, comme on sait, la vie paysanne, c'est une vie de labeur.
Oui, c'est ça. En fait, les enfants travaillaient. Les enfants de la ville faisaient les mêmes choses que les petits enfants des familles paysannes faisaient, c'est-à-dire ils gardaient des bêtes, ils sont allés à la recherche des choses, des fruits, dans la forêt, ils ont cherché l'eau, ils ont fait des petites commissions pour la mère paysanne. Et les garçons plus grands, qui avaient déjà 12, 13, voire 14 ans, souvent, eux, ils étaient astreignés à faire des travaux de champ assez
dur. Assez dur, hein. Ça posait parfois des problèmes. Vous citez dans votre ouvrage des lettres, notamment, j'ai le souvenir d'une lettre d'une petite fille qui se plaint de ces journées qu'elle passe à la campagne. C'était pas toujours sans difficulté. Ces colonies chez l'habitant à cette époque, n'est-ce pas?
Ouais. En fait, les sources que j'avais pour la première période, allant des années 80 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ne me pas donné accès aux expériences directes des enfants, mais aux expériences racontées dans leurs journaux de bord qu'ils étaient obligés de tenir. Et il y avait des colonies collectives à la campagne, notamment les colonies des écoles parisiennes, parce que ces colonies, c'était les instituteurs qui emmenaient les enfants en colo. Et la colo occupait des écoles rurales qui avaient des dortoirs et tout
oui,
ça.
Oui, vous en parlez aussi dans votre livre. C'est un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui les classes de mer, les classes de nature.
Oui, c'est ça.
Diverses et variées. Mais vous expliquez quelque chose de très intéressant qui est qu'à l'origine, ces colonies scolaires, elles étaient pensées comme des récompenses pour les bons élèves.
Oui.
Et qu'il y a un renversement qui se fait à ce moment-là. Vous parlez de l'action d'un monsieur qui s'appelle Edmond Cottinet, je crois, c'est bien ça. Qui lui, à l'idée de dire, mais au contraire, c'est les enfants pauvres, les enfants défavorisés qu'il faut envoyer en priorité.
Les enfants en difficulté.
En colonie, oui.
C'est
en difficulté diverses.
Soit ils sont un peu malades, soit ils sont chétifs, soit ils sont pas très forts à l'école. C'est eux qui ont vraiment besoin de ces voyages parce qu'il y avait cette... Il mettait l'accent, comme tous les autres organisateurs de colonies, il mettait l'accent sur l'aspect hygiénique de la chose. Donc c'était à la fois une œuvre d'éducation, une œuvre hygiéniste. Et quand il s'agissait du placement familial, alors le travail des enfants dans des fermes, durant cette première génération, à partir des années 90 jusqu'au fin de la Première Guerre mondiale, c'était pas perçu comme un problème. C'était pas perçu comme un problème. Les parents qui travaillaient dur en ville ne demandaient pas à ce que leurs enfants ne travaillent pas. Ce n'est que pendant l'entre-deux-guerres et surtout pendant les années 30 que les parents commencent à trouver que c'est pas normal à ce que leurs enfants travaillent durant les vacances. Et c'est là où ça va changer.
Les gosses de Bagnolet sont tous en bonne santé depuis qu'à la mairie de l'ordre a été mis. Les élus ouvriers ont bien su apprécier ce qui manquait aux enfants pour qu'ils soient tous contents de l'air, de la gaieté, tout ce qu'on veut à manger, pouvoir bien s'amuser et dans nos séances baigner. C'est nous, les gosses de la minerie, qui bien loin du mauvais air font un séjour à la mer. Les gosses de riches en meurent d'envie, le séjour est tellement bon à Oléron. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux, joyeux. C'est nous, les gosses de la minerie, tout là-bas à Oléron, on est heureux, on est contents. Tout là-haut sur la butte, là-bas à Bagnolet, les copains qui culbutent n'ont pas le bonheur complet. Tirant nos bérets rouges et nos costumes kaki, sur la plage où l'on bouge, notre peau s'est brunie. On pêche des bigorneaux, on plonge, on saute dans l'eau. Ça creuse les estomacs, mais y'a de quoi piquer dans le plat. C'est nous, les gosses de la minerie, qui bien loin du mauvais air font un séjour à la mer. Les gosses de riches en meurent d'envie, le séjour est tellement bon à Oléron. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux, joyeux. C'est nous, les gosses de la vinerie, tout là-bas à Oléron, on est heureux, on est contents.
À l'instant, la chanson « Les gosses de Bagnolet » retrouvée sur un vinyle de la discothèque de Radio France, sur un disque qui s'appelle « Chants staliniens de France », quelques chansons célèbres chantées avant, après-guerre, par les communistes. Une chanson pour introduire la deuxième période fondamentale du développement de ces colonies de vacances, Laura Lidarnes, vous avez commencé à en parler, l'entre-deux-guerres. Donc, période pendant laquelle entrent en jeu de nombreux nouveaux acteurs qui développent ces initiatives de colonies, non plus seulement les protestants, il y eut aussi à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle les catholiques, mais aussi arrivent dans la bataille, si je puis dire, les municipalités socialistes et communistes en particulier. Comment est-ce qu'elles se saisissent de cette question? Pourquoi est-ce qu'elles deviennent un acteur si important du développement de ces colonies à cette époque-là?
C'est une excellente question. Alors, si je peux commencer par parler un peu du champ de cette action vis-à-vis des enfants. C'est un champ qui est, dès le départ, fragmenté par des obédiences politiques et idéologiques diverses. Et la matrice de cette fragmentation, c'est évidemment la division entre catholiques et toutes les autres, protestantes mais aussi républicains, anticléricaux. Et c'est cette division qui donne naissance à des colonies de vacances catholiques au début des années 1890 parce que ils trouvent que c'est vraiment très mauvais à ce que les enfants catholiques des quartiers pauvres partent avec les ennemis du Dieu.
Oui, que représentent les républicains et l'école républicaine. Il faut dire aussi, on ne l'a pas mentionné, mais c'est vrai que 1905, c'est aussi la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, il y a un contexte d'affrontement très violent entre cléricaux et anticléricaux.
C'est ça. Et les catholiques aussi, eux, ils considéraient que c'était vrai, pas sain. Du point de vue moral, c'est-à-dire religieuse, de laisser les enfants dans des familles paysannes, même si ces familles étaient catholiques, parce que ils trouvaient que ces familles n'avaient pas un niveau de compréhension très élevé de la doctrine catholique, n'étaient pas très pratiquantes, c'était trop investi dans le travail, etc. Donc, c'était toujours une structure de collectif de colonies qui était prônée par les catholiques.
Oui, en fait, c'est eux à mettre en place quasiment les premiers, à l'exception des voyages scolaires dont on a parlé, vraiment des structures collectives avec des activités du coup qui sont des activités religieuses dans les colonies catholiques. Les enfants vont à la messe, j'imagine.
Oui, il y avait un peu des deux, c'est-à-dire que les catholiques étaient vraiment des pionniers de l'éducation active en France et notamment dans le domaine des colonies de vacances, parce que ils avaient une approche qu'ils ont déjà mise en œuvre dans les patronages, qui était une approche qui mettait en avant un mélange de jeux et d'activités religieuses, donc aller à la messe, jouer au récré, puis leçon d'histoire sainte, promenade quand il faisait beau, promenade parfois vers des lieux de pèlerinage. Et donc, en colonie de vacances, ça s'avérait une formule très vouée à réussir.
Oui, c'est-à-dire que la colonie, ça devient aussi un terrain d'expérimentation pédagogique et assez à l'avancée sur ce terrain-là, avec l'idée que le jeu peut être un instrument de formation qui paraît assez évidente, je ne sais pas, mais assez reconnue aujourd'hui, qu'il n'était pas tout à fait à l'époque.
Oui. Et ce sont les catholiques qui ont commencé au tournant du XXe siècle avec des jeux qui mettaient en avant notamment le théâtre, des mises en scène, les marionnettes, toutes sortes de jeux différentes. Et ça revient un peu à la pédagogie jésuite qui remonte à la fin du XVIIe siècle avec cette idée qu'il faut que les enfants chantent, qu'ils font une sorte de mise en scène des histoires religieuses, que ça passe un peu par le corps. Que l'instruction passe par le corps.
Mais alors ces municipalités socialistes et communistes, ces gosses de Bagnolet, au fond, elles reprennent un peu ces structures développées par les catholiques, c'est ça l'idée ?
Tout à fait. Parce que le modèle principal des colonies de vacances collectives, ce sont les colonies catholiques. Et les catholiques sont les œuvres qui sont très inventifs du côté pédagogique. Tandis que les écoles républicaines résistaient un peu plus longtemps à des pédagogies vraiment très nouvelles.
Dans votre livre, vous étudiez en particulier le cas de deux municipalités, celle de Suresnes, qui était une banlieue de l'Ouest parisien socialiste tout au long de l'entre-deux-guerres, et dont le maire Henri Cellier, qui sera aussi ministre de la Santé de Léon Blum, a eu une action très, très forte sur le terrain des colonies de vacances, en envoyant notamment des enfants dans la Nièvre. Et aussi le cas de Ivry-sur-Seine, qui était une municipalité communistes. Il y a plusieurs photos que vous reproduisez dans votre livre et qui sont assez émouvantes, notamment une très belle photo des petits-enfants ivriens rassemblés en 1923 devant le fronton de la mairie. On voit, ils sont peut-être une centaine et on les prend en photo alors qu'ils vont partir pour la Vendée dans un centre, parce que pour le coup, la municipalité à Ivry va faire l'acquisition d'un centre, comme ce sera le cas ensuite dans plusieurs autres municipalités, un centre en Charente-Maritime, près de Royan, qui s'appelle les Maths. Donc cette fois-ci, c'est bien la vie collective qui est privilégiée.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette photo dont tu parles, de 1923, c'est juste avant l'élection de la municipalité communiste. Et
d'accord.
Donc c'est la fin de la municipalité républicain-socialiste, et qui avait une œuvre de colonie qui plaçait les enfants à la campagne dans des familles dans la Vendée. Et donc, cette œuvre qui passe par placement familial sera remplacée dès 1926, me semble-t-il, par un envoi des enfants dans des centres collectifs communistes qui bougeaient un petit peu, ils louaient des centres différents, jusqu'au moment en 28, où la municipalité a acheté une ancienne ferme à Royan, au Mat, dans le village des Mat, et ils ont transformé ça en colonie de vacances.
Une autre photo qu'on voit dans le livre, toujours avec les enfants d'Ivry, cette fois-ci après-guerre, un peu plus tard, en 1946. En l'occurrence, ce sont plusieurs jeunes garçons qu'on voit au Mat, qui sur une estrade font une espèce de pyramide humaine en tenue gymnastique, et derrière eux, un grand portrait, une photo de Maurice Thorez et une citation, l'enfant, notre plus doux espoir. Il faut dire quand même que donc pour ces municipalités, l'intérêt de ces colonies, c'est aussi de transmettre une culture politique.
Absolument. Il y avait une pédagogie de la vie ouvrière, de la lutte ouvrière, de la conscience de classe qui s'est développée petit à petit. À partir de la fin des années 20 à Ivry, et qui s'est développé tout au long des années 30, avec l'idée d'une sorte d'autogestion des enfants, de leur colonie de vacances, mais c'était une autogestion extrêmement encadrée par les adultes. Donc, comité de discipline, comité de jeu, etc., etc., mais toujours très encadré par les adultes. Et puis, le grand moment de cette pédagogie de la vie ouvrière, c'était vraiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, parce que en ce qui concerne la ville d'Ivry et plein d'autres d'œuvres de colonies qui avaient acheté des centres ou des villas sur la mer, la Seconde Guerre mondiale représente une rupture, parce que la côte a été occupée par les nazis, et en l'occurrence, la colonie de vacances des Mat a été occupée pendant 5 ans par l'armée allemande. Donc, c'est juste après la guerre que la colonie est réorganisée en tant que république enfantine. Et là, il y avait vraiment une volonté très, très forte de la part du directeur Venise Gona d'impliquer les enfants directement dans la gestion de la colonie et de les investir avec un esprit un peu révolutionnaire. Donc, lors qu'il y avait des événements, des grands événements extérieurs à la colonie, des grands événements politiques, il y avait des manifestations enfantines au sein de la colonie avec banderoles, avec chants, tout ça.
Il faut quand même qu'on dise un petit mot sur le rôle que joue dans toute cette histoire, je remonte un peu en avant, le Front populaire, parce que on aura compris que l'histoire, contrairement à ce qu'on pense parfois, ne commence pas avec le Front populaire, mais malgré tout, ce moment autour de 1936 va être important dans cette histoire. Vous expliquez notamment que c'est là que va s'inventer un cadre réglementaire, que l'État va prendre en charge, notamment la formation des moniteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'importance de cette période-là?
Oui, c'est-à-dire qu'avant avant le Front populaire, l'État a parfois donné des subventions aux œuvres de colonies et a demandé à ce que les enfants soient vaccinés, que les colonies prennent une assurance. Mais en gros, l'État a laissé les colonies s'organiser, chaque œuvre toute seule, avec parfois une petite aide financière.
C'est des initiatives de la société civile, hein,
c'est ça.
Ces colonies.
C'est ça.
Oui.
Et pour plusieurs raisons. C'est quelque chose qui représentait là, le pluralisme de la société civile. Et je crois qu'aussi dans une période où les conflits, notamment entre catholiques et anticléricaux, étaient assez sanglants, c'était une manière d'éviter que ces conflits se reproduisent directement entre les enfants, d'éviter des affrontements et de permettre à tout le monde d'organiser comme il voulait leurs œuvres d'enfance et d'éducation et de loisirs. Et donc, aux périodes du Fonds populaire, justement, on a une sorte de rassemblant, un grand rassemblant qui va du centre républicain jusqu'au communiste, en passant par les socialistes. Et donc, c'est dans cet esprit de rassemblement populaire, une grande alliance, que ces œuvres de colonie qui ont été toujours très importantes pour la gauche, parce que c'est une manière de transmettre les valeurs de la classe ouvrière, les pratiques, une éducation proprement pour les enfants de la classe ouvrière, une éducation supplémentaire à celle de l'école républicaine, qui transmet les valeurs de la municipalité, du parti politique, des syndicalistes, etc. Donc c'est justement durant cette période où nous avons une sorte de rassemblement de gauche ou des gauches que Henri Cellier, qui était ministre de la Santé publique.
Le maire de Suresnes, dont
oui,
on parlait
ça,
tout à l'heure.
C'est ça, le cumul de mandats.
Pas interdit à l'époque.
Oui, exact. Lui, il a créé le premier cadre national, c'est une régulation des conditions sanitaires et dans les colonies collectives et dans les colonies de placement familial, mais aussi une deuxième loi qui est une réglementation de la formation pédagogique qui se fait déjà d'ailleurs dans des filières propres à chaque obédience, dans des filières protestantes, catholiques, une filière extrême droite qui commence à voir le jour au milieu des années 30. Et puis donc il y a plusieurs filières qui reflètent la pluralité des colonies de vacances.
Et donc, mais malgré tout un cadre légal pour la
c'est
première
ça.
Fois.
Pour la première fois, avec l'obligation de faire, si je m'en souviens bien, 10 jours de stage dans une telle filière. Ça, c'est pour les moniteurs et monitrices, mais il y a aussi un règlement pour réglementation pour les directeurs aussi. Donc voilà, tout
ouais,
le monde.
Toute, la formation, on pense qu'il est nécessaire que les encadrants, les moniteurs, les directeurs soient formés dans un cadre malgré tout national. J'avance
exact.
Un peu dans les années. Dans les années 50 et 60, pendant les 30 Glorieuses, ça va être la période de l'apogée hein, des colonies de vacances, appuyées notamment par l'action des comités d'entreprise, dans une période bien sûr de plein emploi. Mais après cela, à partir des années 1975, en gros, la fréquentation va peu à peu diminuer jusqu'à connaître des taux historiquement très bas aujourd'hui, alors que dans les années 60, on estime que quelques 4 millions d'enfants, je crois, partaient chaque année en colonie de vacances. Ils ne sont plus qu'un peu plus d'un million aujourd'hui. Et il y a un chiffre que vous citez dans un article récent, encore plus inquiétant, encore plus triste d'une certaine manière. Un rapport parlementaire sur l'accessibilité des jeunes au séjour collectif soulignait en 2013 qu'aujourd'hui, environ un quart des jeunes de 5 à 19 ans ne partent jamais en vacances. Comment on peut expliquer un tel déclin? Comment on peut expliquer que ces jolies colonies de vacances ne soient plus si fréquentées aujourd'hui et surtout plus par les premiers concernés historiquement, à savoir les enfants des classes populaires?
Oui, c'est ça. C'est que la population visée au début, c'était vraiment précisément les enfants des familles ouvrières, ce qu'on appelle aujourd'hui des working poor. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les enfants des classes moyennes qui partent en colonie de vacances, dans une colonie de vacances elle-même transformée par l'avènement de la société de la consommation.
Oui, aujourd'hui ça coûte cher.
Oui, et puis il y a des activités, les poneys, etc. Donc la colonie de vacances, depuis 10 ans, les années 80, commence petit à petit à s'aligner sur un modèle de tourisme commercial. Mmh. Et parce que elle rentre de plus en plus en concurrence directe avec, avec des structures commerciales qui offrent pony, voile, VTT, escalade, séjour linguistique, toutes sortes de trucs, des colonies à thème, de plus courte
durée.
Oui,
on a un large choix, mais il faut avoir les moyens de financer.
C'est ça.
Il faut dire aussi que les vacances pendant cette période des parents se sont, elles, rallongées.
Oui, c'est
jusqu'à
ça.
Aller jusqu'à 5 semaines aujourd'hui de congés payés. Donc, les parents ont tendance à davantage partir avec leurs enfants. Donc, moins de temps nécessaire de colonie, disons. Oui. Et puis, ce qui existe aujourd'hui pour les enfants des classes populaires, il existe encore des initiatives municipales des mairies qui se disent qu'il faut faire quelque chose pour les enfants, mais c'est plus sous la forme de centres de loisirs locaux et
de séjour, de départ, exact. Donc le départ collectif, ça existe toujours, mais de moins en moins. Il y a 25% de ces enfants qui n'en parlent jamais. Et puis, il me semble qu'il y a plusieurs raisons, en fait. Il y a le fait que depuis le choc pétrolier, depuis le milieu des années 70, les budgets des municipalités sont petit à petit rétrécissent. Et donc, il y a moins d'argent pour aider les plus pauvres à y assister. Puis 20 ans plus tard, on va voir, 20 ans, 30 ans plus tard, on va voir pas mal de municipalités vendre leurs propriétés qui sont dans des endroits qui étaient des endroits de quand ils ont été achetés durant les années 30, 40, 50, il y avait ça coûtait très peu cher. C'était la côte charentaise, ça coûtait trois fois rien à l'époque. Maintenant, c'est très convoité.
Ouais, il y a une inflation.
Oui, c'est ça.
Des terrains.
Et donc pour arrondir les budgets municipaux, pas mal de municipalités ont vendu leur propriété et donc s'ils décident de faire partir les enfants, ils louent quelque chose. Parfois, ils louent tout le service, c'est-à-dire ils louent une structure et ils louent le personnel. Le personnel n'est plus des jeunes de la municipalité. Il y a toute cette structure de solidarité qui faisait en sorte que les adolescents et les jeunes adultes de la municipalité accompagnaient les enfants de la municipalité dans une colonie qui a été achetée par la municipalité. Toute cette solidarité municipale est maintenant sous-traitée à des organismes commerciaux de colonies public.
Oui,
c'est plein de contradictions.
Ouais.
On est plein dans le néolibéralisme, en fait.
Oui, on entend que finalement, cette histoire des colonies de vacances reflète aussi les évolutions de la société dans son ensemble. C'est assez frappant. Merci beaucoup, Laura Lee Downs, de nous avoir permis de retracer un petit bout de ce long parcours donc, de l'histoire des colonies de vacances. Je renvoie, bien sûr, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, à votre livre, donc l'histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours. On en indiquera bien sûr les références sur le site ainsi que quelques-uns de vos articles récents sur ce sujet. Merci aussi à Sonia Leglen pour la réalisation de cet entretien et à Jacques Hubert qui en a assuré la prise de son. Place maintenant à la suite de notre programme pour cette nuit des grandes vacances. Dans un instant, vous pourrez entendre un documentaire de Béatrice Leca et Gaël Gillon autour des grandes vacances d'enfants et d'adolescents dans un petit village en Corse. Puis la pièce de théâtre de David Lescaut intitulée « J'ai trop peur » ou les grandes vacances d'un jeune garçon de 11 ans terrorisé à l'approche de son entrée en 6e. Un épisode de la série 1936 « L'été en tandem » par Raphaël Bourgois et Martin Kénen. C'était en 2006. Dans le dernier épisode de cette série, il s'intéressait justement au sort de ceux qui ne partent pas. Il y avait un reportage dans un centre de loisirs de Bobigny. Et puis enfin, sur un autre terrain, on suivra un écrivain en vacances. Il s'agit de Pierre Bergougnou, dans un beau documentaire de Christine Le Cerf en 2012. Elle avait passé une journée d'été aux côtés de Pierre Bergougnou dans sa maison de Haute-Corrèze.
Quand nous irons en vacances, la 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 la, nous ferons tous connaissance, la 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 la. avec les prés, les bois de la douce Île-de-France, où les rives fleurissent au soleil du midi. Si nous allons en Bretagne, la 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 la, à nous la lande, la campagne, la 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 la, notre ami l'Alouette nous dira, mes amis, ayez tous le cœur en fête, les apprentis.